France Culture.
France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Puissant, prêt à bondir, quelque chose de taurin. Voici une brève description physique de Paul Claudel par Max-Paul Fouchet. C'était hier dans le premier volet de la série Archipel Claudel, témoignage. L'été 2005, France Culture, en plusieurs rendez-vous, explorait donc cet archipel Claudel. Des débats, mais également des archives. Et voici le deuxième épisode de cette série avec, entre autres, les voix de François Mauriac, André Gide, Jean Amrouche, Pierre-Emmanuel, Jean Cayrol.
Je pense que la radiophonie est une auxiliaire inestimable du poète. Elle lui permet de se faire son propre interprète et de substituer l'intention originale à la représentation écrite conventionnelle toujours insuffisante.
Archipel Claudel, une série proposée par François Angelier.
Je peux marcher ? Oui. Vous me ferez signe alors ?
Oui, je vais simplement faire ça.
Claudel témoignage, deuxième volet, écrivain et musicien. Après notre débat sur la conversion claudelienne, je vous propose d'écouter d'autres voix parler de Claudel, voix d'écrivain, voix de poète, voix de musicien. Première d'entre elles, Mauriac. Mauriac, l'antipode de Claudel. Romancier l'un, dramaturge l'autre et poète. Une foi pascalienne, centrée sur une âpre méditation du péché pour l'un, une adoration rayonnante de tout le créé pour l'autre, assise sur un thomisme inébranlable. S'ils se trouvaient réunis dans la lutte contre la laïcité anticléricale dans les années 1912, la guerre civile espagnole les sépara durablement. Une rupture qui ne prit fin qu'après-guerre, lors notamment de cet accueil sous la coupole que fit Mauriac à Claudel en mars 1947.
Monsieur, l'honneur de vous accueillir dans notre compagnie, je ne crois pas l'avoir usurpé. J'appartiens à cette génération qui, la première, vous a compris et vous a aimé. Lorsqu'au déclin de l'âge, nous nous tournons vers notre adolescence, plus d'un trait du jeune homme que nous fûmes nous irrite ou nous fait sourire. Mais je serais tenté de beaucoup lui pardonner à ce jeune homme pour la lucide ferveur que lui inspiraient des poètes ignoré du public et méconnu de la critique officielle. À l'aube de ce siècle, encore collégien, nous savions qui vous étiez. Dès 1906, dans la première étude importante qui vous ait été consacrée, Jacques Rivière a signé sa vraie place au dramaturge inconnu de Tête d'or et de la jeune fille Violaine. De notre Bordeaux natal, il criait vers vous qui étiez consul en Chine, et vous lui répondiez avec une patience de grand frère, mais aussi avec une autorité pressante et comme un homme investi d'une mission. En la personne de Rivière, c'était un grand nombre d'entre nous que vous alliez atteindre. C'était beaucoup de destinées que vous alliez orienter. Mais est-ce le lieu, est-ce le jour de toucher à ces secrets de l'âme? Je me suis interrogé à ce propos, non sans quelque angoisse. L'éloquence académique appartient à un genre qui possède ses traditions et ses lois. Sans doute, ce genre exigerait-il que je trace ici du consul et de l'ambassadeur que vous fûtes une image plaisante. Je ne le puis. Cette rencontre solennelle est unique dans nos vies. Je ne suis pas seulement le porte-parole de la compagnie qui vous accueille. Beaucoup de morts et de vivants me pressent de vous parler comme si nous étions seuls, vous et moi. Leur vœu que je ne décevrai pas, c'est que je vous rende témoignage, c'est que je reconnaisse cette dette de lumière que nous avons contractée envers vous.
Un portrait de Claudel bâti autour de l'instant crucial de la conversion, un instant qui aimante Mauriac plus qu'aucun autre, à l'égal du climat de solitude des rares croyants fin de siècle.
Vous étiez venu là, en esthète, espérant trouver dans les cérémonies catholiques un excitant approprié à la matière de votre théâtre. Et tout à coup, mais ici, je ne puis que vous laisser la parole. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire, y toucher. Le temps s'écoule, et je n'ai rien dit encore de ce qui demeure l'essentiel de votre œuvre, vos drames. Tête d'or, la jeune fille Violaine, la ville, l'échange, partage de midi, l'annonce faite à Marie, le repos du septième jour, l'otage, le pain dur, le père humilié, le soulier de satin. Me voici devant ce massif, le plus étrange de toute notre littérature, qui ne se relie pas à l'ensemble du système français, qui a surgi tout à coup comme un archipel émergé de l'abîme marin. Ni Échille, qui vous est familier et dont vous avez été le traducteur magnifique, ni Shakespeare, n'explique le drame claudélien, dont l'unique source visible demeure l'écriture, la parole de Dieu. Et pourtant, il pousse de profondes racines dans l'histoire de France. J'ai trop mis l'accent tout à l'heure sur votre solitude, car on ne saurait inscrire au fronton de votre théâtre le mot de Baudelaire, le public n'entre pas ici. L'annonce faite à Marie, jouée par une troupe jeune et fervente pendant l'occupation, n'est demeurée un mystère pour le public qu'au sens où on l'entendait du temps que le peuple fidèle se pressait au portail des cathédrales devant les tréteaux des confrères de la Passion. Et nous avons connu alors que ce peuple fidèle se perpétue chez nous depuis le Moyen-Âge, le même qui est capable d'entendre Peggy et pour qui votre Violaine la Sainte et votre Marat la Mauvaise et pour qui Pierre de Craon, le bâtisseur d'église, demeure des créatures vivantes. Un peuple que ne déconcerte pas l'économie de ce monde invisible que vous lui rendez familier, où la souffrance humaine sert de monnaie d'échange entre le Créateur et sa créature sanctifiée ou coupable.
Néanmoins, cet hommage d'après-guerre ne peut faire oublier les profondes discordes suscitées par le ralliement claudélien à la croisade franquiste, ralliement qui outragea presque Mauriac et qui passe, fugacement, dans ses entretiens avec Pierre de Boisdeffre en novembre 1964.
Donc, vous n'avez pas été tenté une seule seconde, lorsqu'a éclaté la guerre d'Espagne, de prendre le parti de la croisade franquiste, le parti qu'avait commencé par suivre Bernanos en s'installant à Majorque?
Non, parce que tout de suite, dans l'affaire franquiste, vous savez, moi je ne suis pas un philosophe et je vois beaucoup les choses en images. Vous savez, il y a eu ce sacré cœur attaché au burnous de la garde mort de Franco. Il y a eu tout de suite cette affreuse équivoque contre laquelle je me suis toujours battu, qui m'avait dressé contre Maurras sur ce plan-là.
Contre Claudel?
Contre Claudel, enfin, à quoi faites-vous allusion, là?
Eh bien, je ne crois pas me tromper en disant que Paul Claudel avait approuvé le manifeste des évêques de l'Église d'Espagne.
Ah oui, je l'avais oublié. Je l'avais oublié et je regrette que vous me le rappeliez parce que ça m'avait rendu furieux. Vous comprenez, si vous voulez, le cas Franco éclairait nettement l'équivoque et alors là, j'ai réagi violemment. Je me trouvais exactement sur le terrain où il n'y avait pas pour moi à hésiter, vous comprenez. Et évidemment, à partir de là, eh bien, j'ai pris parti. Et puis alors, il y a eu la guerre, et puis il y a eu l'après-guerre.
Différent qu'efface la mort de Claudel en 1955, Mauriac trouve là d'autres mots plus sereins, plus fervents, pour évoquer Claudel.
Notre plus grand poète meurt plein de jours et plein d'œuvres, comme un patriarche de l'Ancien Testament. Et après avoir connu l'autre soir, au Théâtre Français, une apothéose officielle. Mais il retourne à Dieu le matin du mercredi des cendres, et il n'a pas eu besoin que le prêtre dessina pour la dernière fois sur son front une croix de poussière. Les hommes s'en sont chargés, les critiques y ont suffi. Maintenant, le misérable décor, fait de mains d'ouvriers, a été abattu, les oripeaux arrachés et dispersés, et l'œuvre demeure qu'il confronte aujourd'hui à son modèle éternel. Telle est sa gloire, et qu'il ne lui sera pas ravi. Son théâtre, ses grandes odes, ont exprimé, autant que le pouvait faire le langage humain, cette vérité vivante en laquelle il a cru. Claudel, qui a reçu la grâce des grâces, celle de son patron Paul de Tarse, et qui, un jour de Noël de l'an 87, a été renversé sur la route, qui a vu, qui a entendu, qui a touché le verbe de la vie, n'a jamais renié aux heures des ténèbres ce qui lui avait été révélé dans la lumière, son inspiration, et jusqu'à son dernier jour aura épousé la grâce. Il a été, au siècle de Nietzsche, le héros catholique de Dieu, son annonciateur, son témoin. Un chrétien de mon âge ne dira jamais assez ce que notre génération doit à Claudel, quel témoin, quel garant il fut pour nous de la vérité méprisée et bafouée dans ces premières années du siècle. Ô mon Dieu, je me rappelle ces ténèbres où nous étions face à face tous les deux, ces sombres après-midi d'hiver à Notre-Dame, moi tout seul, tout en bas, éclairant la face du grand Christ de bronze avec un cierge de 25 centimes. Tous les hommes alors étaient contre nous. Je ne répondais rien. La science, la raison, la foi seule était en moi et je vous regardais en silence comme un homme qui préfère son ami. Voilà mon Claudel, celui que la mort ne me prend pas, qu'elle me restitue au contraire, car il y avait peu de communication entre nous. Comme la plupart des grands créateurs, il n'entrait pas dans l'œuvre des autres. Lui surtout, qui avait planté sa tente sur le Tabor, ou plutôt sur le Sinaï, je crois qu'il répugnait à cette misère des passions qui est le sujet de nos livres. Non que l'auteur de Partage de Midi et du Soulier de Satin se soit dérobé devant le mystère du mal. Mais Dieu n'est jamais si présent dans l'œuvre claudelienne que lorsque le pécheur, du fond de l'abîme, l'appelle d'un cri désespéré.
Oh.
On sait l'amère déception que André Gide causa à Claudel. La longue correspondance qui les avait unis, berçant Claudel de l'espoir d'une conversion qui ne vint jamais, et la rupture sèche que causa l'apparition de Coridon et l'horreur ressentie par Claudel à la lecture d'un ouvrage où Gide évoquait sans embâge la question homosexuelle. Amrouche, qui s'entretint longuement pour la radio avec les deux hommes, fut cette passerelle qui permit à Claudel d'évoquer Gide et à Gide, une seule fois, de témoigner de son intérêt précoce, sincère et pertinent pour Paul Claudel.
Je crois qu'on retrouverait nombre d'exemples de grands hommes qui sont devenus grands précisément en réduisant, au contraire, leur compréhension d'autrui et de l'homme en général.
Il est fort possible, précisément, que Claudel est atteint à sa vraie taille, qui est grande, par l'exercice d'un refus à peu près constant à certaines sollicitations de l'humanité.
Oui, je crois cela extrêmement juste, et c'est un exemple admirable qu'on ne peut mieux choisir d'un grand homme qui arrive à la grandeur précisément par le refus d'assumer le plus d'humanité possible.
Est-ce que vous pourriez rappeler quelques images, quelques souvenirs de vos relations de l'époque avec Claudel?
Ce qui les éclairera très suffisamment, je pense, c'est la publication très prochaine qu'on doit faire de notre correspondance. Les relations avec Claudel tournaient assez indiscrètement autour du point religieux, du point de confession. Il est certain que ce qui permit à Claudel d'entretenir des relations aussi intimes avec moi pendant longtemps, c'était un secret espoir de me ramener au catholicisme. Et ce qui les arrêta, ce fut la notion qu'il put avoir que ses espoirs étaient vains.
Mais ce qui me surprend beaucoup, c'est votre admiration littéraire pour les premiers écrits de Claudel, surtout.
Mais il y a une chose très curieuse, c'est nombre d'esprits, dont Francis James est le meilleur exemple que je peux en donner, et qui admire dans autrui et dans la production littéraire d'autrui précisément ce qui leur ressemble. Les livres qui composaient la bibliothèque de James étaient vraiment des livres. C'était Don Quichotte, c'était pas grand chose d'ailleurs, il y en avait très peu qui figuraient dans les élus, dans le panthéon de Francis James. Mais pour moi, je dirais presque que plus un auteur différait de moi, plus je m'éprenais de lui et j'y trouvais matière en enrichissement, et plus je l'étudiais. J'avais pour Claudel une admiration extrêmement vive. Cette admiration date tout à fait du début de nos relations, du moment de tête d'or. Je crois que les jeunes gens d'aujourd'hui ne peuvent pas se rendre compte de l'extraordinaire bombe à retardement que fut la publication d'un livre comme Tête d'or. Nous fûmes quelques-uns, un très petit nombre, à nous dire, à sentir que nous nous trouvions là devant quelque chose d'absolument neuf, d'absolument existant, et quelque chose, disons le mot, de formidable.
Je crois que, ayant lu Tête d'or à peu près aux environs de ma 20e année, j'ai également été fortement secoué par la bombe dont vous parlez, et particulièrement par la bombe Tête d'or, au point qu'aujourd'hui encore, je n'ai pas le sentiment que Claudel ait jamais rien écrit de plus beau, de plus fort, de plus génial, disons-le, que ce livre de sa 18e année.
Il me plaît beaucoup de vous l'entendre dire. Je fréquentais Claudel, que je rencontrais, je ne crois pas qu'il fréquentait Heredia du tout, mais il fréquentait Marcel Schwab. Je le rencontrais très volontiers, et je me souviens de conversations que nous eûmes à cette époque. J'étonnerais beaucoup certains d'aujourd'hui en disant quelle était la grande admiration de Claudel dans les lettres françaises contemporaines. C'était Jules Renard. Claudel professait pour Jules Renard la plus grande admiration. C'était l'auteur qui l'admirait le plus à ce moment-là. Pourquoi? Comment? Eh bien, c'était à la faveur de ces trois petits mots latins qui mettaient en avant l'épigraphe de son œuvre, « Ne quid nimis », rien de trop. Il est assez curieux de voir ce génie surabondant qu'était Claudel qui valait par son intempérance même n'admirer rien tant que précisément la restreinte, la contrainte et le petit nombre de mots.
Oui. Et est-ce que dès cette époque-là, Claudel portait les jugements définitifs qu'il a portés par la suite sur Goethe, par exemple, qu'il traite d'âne quelque part, enfin.
Oui, les jugements de Claudel ont toujours été très sommaires. Mais je crois qu'à cette époque-là, la question religieuse entrait beaucoup moins en ligne de compte qu'elle n'entra par la suite. Cette admiration pour Jules Renard le prouve, car enfin Jules Renard est le contraire d'un croyant, précisément.
Si Claudel, dramaturge, demeure incessamment joué et mis en scène, il eut peu de disciples chez les auteurs dramatiques. Dans le monde poétique, par contre, le souffle maîtré de l'auteur des cinq grandes odes, le visionnaire patient de connaissances de l'Est, le dégustateur méticuleux de la peinture hispano-hollandaise, fut entendu et porta semence, en témoigne cette longue conférence de décembre 1963 du poète Pierre-Emmanuel, portant sur la lecture claudelienne d'Eschyle.
Ce que le poète de tête d'or doit au tragique grec, c'est d'avoir hâté sa maturité religieuse. Par le truchement d'Oreste, son substitué, Claudel aura fait en raccourci l'expérience de la fatalité antique et de la purification qui en vient à bout. La traduction d'Eschyle lui aura servi de descente aux enfers. Les puissances infernales, éprouvées et maîtrisées par Claudel, seront désormais enfermés, comme il le dit, sous l'énorme dalle. La vraie vie, c'est ce rapport unique entre Dieu et l'homme auquel tous les autres rapports sont subordonnés. Et c'est un rapport où l'homme a toujours à dire. L'homme est toujours, dans cette parole même, durement, en travail de sa liberté, comme aussi de la volonté de Dieu. Claudel doit la révélation d'Eschyle à Paul de Saint-Victor, dont le livre admirable, nous dit-il dans l'introduction à l'Orestie, m'a pour toujours placé corps et âme sous l'influence de l'incomparable chef-d'œuvre. Ce livre admirable, c'est un recueil critique intitulé Les deux masques, paru en 1882, et qui contient un commentaire sur Eschyle bien fait pour animer l'imagination du jeune Claudel. Paul de Saint-Victor, le premier, met en lumière le sens prophétique de l'Orestie, la parenté d'Eschyle et des grands inspirés bibliques. Comme les prophètes d'Israël qui l'ignoraient, le poète grec ose parler à Dieu en face. Il conçoit la puissance de la parole humaine, modifiant non seulement l'homme qui la prononce, mais le Dieu auquel cette parole est adressée. Avant Eschyle, écrit Paul de Saint-Victor, Ézéchiel avait eu l'intuition de ces grands changements opérés dans la conscience de ces êtres divins. Comme Eschyle, il attendrit la face courroucée du ciel, il brise comme lui l'implacable épée de ses anges exterminateurs. Cette audace à se mesurer avec Dieu, à s'en saisir pour en être saisi, j'imagine qu'elle a dû frapper Claudel consciemment ou non et qu'il a pressenti par elle, désiré en elle, la forme que son destin allait prendre. Sacerdotal au milieu d'un peuple laïque, tel est Eschyle pour Paul de Saint-Victor. Et n'est-ce pas également la vocation de Claudel, tout ignorant qu'il en peut être en commençant l'énorme entreprise de traduire l'Orestie? Les citations dont Paul de Saint-Victor illustre son commentaire sont tirées de la traduction de Lecomte de Lisle, insupportable à l'oreille et à l'esprit de Claudel. Les autres traductions ne valent guère mieux, selon lui, faite, dit-il, par des pets de loup en style ridicule. C'est donc directement dans le texte que le jeune poète aborde l'œuvre d'Eschyle. Et il comprend vite que pour s'y frayer des sentiers, il ne lui suffit pas de rafraîchir le grec de ses études classiques. La parole tragique exige d'être vécue. Elle ne communiquera son énergie secrète et sacrée qu'à celui qui osera la faire sienne humblement et totalement. Pourquoi Claudel, tout en développant son œuvre propre, va-t-il se donner à celle d'Eschyle de manière si intime que sa création personnelle et sa recréation du tragique grec se correspondent comme en contrepoint, tout au moins à l'époque où il traduit Agamemnon? C'est, me semble-t-il, que la langue grecque, plus encore que l'anglais, lui offre l'exemple d'une parole autocréatrice, en mouvement sur elle-même, d'autant plus chargée de virtualité que son économie est plus elliptique. Pour traduire en français, dit Jean Humbert, on doit ajouter à l'expression du grec bien de la bourre inutile. Or justement, l'ambition de Claudel était d'éliminer cette bourre du français, d'y réintroduire un mystère verbal que l'habitude de l'explicitation avait chassé. À Maurice Potcher, il annonce sa traduction d'Eschyle en des termes qui conviendraient à ses propres écrits de la même époque. C'est un texte quasi oraculaire, avec des sous-entendus d'une obscurité sacrée, plein de ruines et de trous, avec des épithètes, des régimes suspendus dans le vide. C'est un travail de devin autant que de traducteur. L'hermétisme dont il célèbre ici la vertu et dont son œuvre offre tant d'exemples n'est pas, comme chez ses maîtres symbolistes, une raréfaction apparente du sens par escamotage de son contenu explicite, ce qui produirait une énigme synthétique, un diamant artificiel. Claudel, lui, est investi par la parole. Elle se manifeste en lui comme un élément, premier et dernier, qui englobe et qui métamorphose les quatre autres. C'est donc elle qui dispose du poète, précédant pour ainsi dire sa pensée, faisant violence à l'intelligence trop attachée à sa seule loi. Irrécusable comme une force naturelle, tel est le dire claudélien. Claudel, c'est une parole qui se meut, impatiente, brûlant les étapes, surabondante de sens, chargée d'une énergie qui ne se connaît qu'une fois dépensée. C'est une syntaxe qui se jette en avant, se fiant au souffle. La loi du souffle est la loi du sens. Claudel avait déjà noté que dans Shakespeare, l'élément prosodique principal paraît être l'enjambement, the break, le heurt, la cassure aux endroits les plus illogiques, comme pour laisser entrer l'âme et la poésie par tous les bouts. Dans Eschyle, il est encore plus sensible que le sens général, tel qu'on le retrouve dans les traductions courantes, n'épuise pas la signification réelle, mais au contraire la dérobe souvent. Toute traduction doit tenir compte de cette tension entre l'ordre des mots, tel que le détermine la syntaxe française, et leur valeur, le ton de chacun d'eux dans l'original grec. En travaillant sur ce dernier, Claudel se fie surtout à la place des vocables. Il la tient pour intime à leur être. Cette préoccupation du nombre est fondamentale, non seulement dans son esthétique, mais dans sa conception religieuse du monde d'où découle tout son art. « Tout être est un nombre », écrit-il dans « Sous les remparts d'Athènes » en hommage au chimiste Marcellin Berthelot. En lui, ajoute-t-il, la quantité est inséparable de la qualité, tout ainsi que le corps est uni avec l'âme. Traduire, c'est donc savoir écouter le nombre, se recueillir, prêter l'oreille, ne pas effaroucher trop tôt le sens par une compréhension superficielle et vaine. Son attitude à l'égard des vocables dans Eschyle est la même que Claudel recommande à l'égard des morts. Ils sont mêlés à quelque chose d'important qu'il ne faut pas interrompre. Il ne faut pas leur faire peur. Il faut nous associer nous-mêmes à je ne sais quoi de continu qui est leur élément. Ce je ne sais quoi de continu, c'est dans la parole une certaine pulsation, un certain rythme. Avant d'être un enchaînement de propositions, la parole est un phénomène psychique, un mouvement intérieur. En ce mouvement, celui du souffle, se manifeste un être humain, jusque dans son obscurité inconcevable à la seule intelligence. C'est même, bien avant l'entendement, bien avant la faculté d'entendre, l'être obscur qui se met en branle, se communiquant ainsi à cette faculté. Je ne parle pas selon ce que je veux. D'abord le souffle m'est enlevé, et de nouveau de l'existence de la vie se soulève le désir de respirer, et j'absorbe l'air, et le cœur profond, baigné, il dit. Et je restitue une parole, et alors je sais ce que j'ai dit, et telle est ma joie. Comment marquer dans et par le souffle cette dualité entre la pensée consciente et la sensibilité profonde, en même temps que l'espèce de dialogue qu'elles poursuivent et où se refait un l'être divisé? Claudel n'a pas trouvé dans le vers français régulier la tension qu'un tel duel nécessite et provoque. Si nous en croyons son introduction à l'Orestie, c'est à Échille qu'il en devrait le secret. Chez le tragique, tout l'espace infernal se creuse non seulement autour des personnages, mais en eux. La rupture d'un plan à l'autre est constante, et le langage en traduit les faits avec une exactitude physique, viscérale, qui envoûte et angoisse. Pour reproduire la modification organique et la susciter chez l'auditeur, la parole doit donc s'accorder au rythme de l'émotion, à sa physiologie. Le rythme devenant parole, c'est l'iambe, succession d'une brève et d'une longue, comptée, dit Claudel, par le métronome intérieur que nous portons dans notre poitrine, le coup de notre pompe à vie, le cœur qui dit indéfiniment « un, 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 pan, rien, pan, rien ». Pan, rien. Dans notre parole, comme dans notre poitrine, le cœur bat. Il propulse et règle notre pensée, cette masse d'éléments psychiques discontinus, ordonnée selon le rythme qui la contracte et la détend. Toute pensée naissante est alors métaphore. Portée en avant par le rythme, elle est changée et chargée par lui, puis revient autre qu'elle-même sur soi. Écoutons Claudel dans l'art poétique. La métaphore, l'iambe fondamentale au rapport d'une grave et d'une aiguë, ne se joue pas qu'aux feuilles de nos livres, elle est l'art autochtone employé par tout ce qui naît. Si l'iambe est par excellence le maître de la tragédie, c'est qu'il projette le langage en durée, non pas vers une résolution linéaire, mais de telle sorte que le personnage, en parlant, s'accroisse de tous les rapports qu'il entretient avec l'ensemble du drame. Ce crescendo vers l'unité a, du passé au futur, pour loi simple et infaillible, ce que Claudel nomme magnifiquement l'éternelle proposition créatrice de la tonique à la dominante. Ainsi, la résolution de la tragédie parachève et totalise le sens de la fatalité qui tout d'abord l'entraînait, le protagoniste se fait progressivement un destin. Il l'intègre et lui donne son nom. Il est enfin toute la capacité de son être. Maintenant, il peut faire silence. Le dénouement de la tragédie doit nous combler et nous vider tout ensemble, nous laissant résolus et purifiés. Une fois tous les rapports intériorisés par l'esprit qui les a établis l'un après l'autre, la signification exhaustive se meurt, la parole véritablement expire avec l'action. Le temps, nous est-il dit dans l'art poétique, le temps est le moyen offert à tout ce qui sera d'être, afin de n'être plus. Il est l'invitation à mourir, à toute phrase de se décomposer dans l'accord explicatif et total, de consommer la parole d'adoration à l'oreille de Sigé, l'abîme. Tout en identifiant son bon droit avec sa parfaite obéissance au commandement d'Apollon, Oreste prend sur lui le poids du crime dont il s'est souillé par obéissance. Il pressent que l'expiation volontaire délivre Dieu, libère en Dieu la possibilité du pardon. De la fatalité du malheur, il en appelle au Dieu même, comme à ses garants. Dans les Euménides, il paraît en suppliant d'Athéna, avec Apollon pour témoin. Il contraint ainsi Apollon et le Père, dont ce dernier est le prophète, a dégagé ouvertement leur dessein du mécanisme fatal pour que Dieu et l'homme aient enfin partie liée dans la liberté. Non seulement Oreste est alors absous, mais en vertu de son action sur les dieux, une nouvelle loi est substituée à l'ancienne. En élevant aux dieux sa supplication, Oreste leur a posé, il leur a même imposé une question où la liberté humaine tient en germe. Conscient d'être l'instrument du destin, du dessein de Zeus, il en requiert la signification morale. Il veut que sa conscience d'homme soit pour les dieux telle qu'il la conçoit, le miroir où leur justice se réfléchit, la pensée qui s'attache à la justice divine et la projette. À la déclaration d'indépendance du coupable s'oppose donc la revendication suppliante de l'innocent. Cet appel à Dieu constitue les prémices d'une liberté nouvelle dont la nature est marquée par le jugement final des Euménides. Au tribunal du peuple, la foule se divise en deux parts égales. Condamné de justesse par le peuple, Oreste est aussi sauvé de justesse par le seul suffrage d'Athéna qui emporte la décision en faveur du suppliant. Ainsi, la divinité prend le parti de l'homme quand ce dernier, se saisissant de sa propre cause, la remet avec une confiance impérative aux mains de Dieu. On comprend pourquoi Paul Claudel, dans ses notes en marge de l'Orestie, compare le dialogue entre le protagoniste et le cœur à l'introïte du premier dimanche de l'Avent, « Atte levavi animam meam, deus meus in te confido non erubescam, à toi ma confiance, ô mon Dieu, que je n'ai pas à en rougir. » C'est l'avènement de la vraie justice, écrit Paul de Saint-Victor, qui couronne si magnifiquement l'Orestie. Et d'Eschyle, frère des prophètes, il dit ceci que Claudel développera dans sa perspective unitaire de l'histoire du monde. En lui et par lui, le génie grec et le génie hébraïque, si lointains et si dissemblables, se touchent du front et des ailes comme les chérubins de l'arche biblique et s'inclinent devant le même Dieu. Claudel va plus loin encore et n'hésite pas de voir dans l'Orestie une pierre d'attente de la révélation chrétienne. Athéna, nous dit la note sur les Euménides, Athéna c'est la sagesse qui parle à sa place en mots humains d'un Dieu à lui-même suffisant. Zeus, le Père par excellence, est désigné par elle en phrases mystérieuses et étonnamment prophétiques, où déjà l'on reconnaît les ombres de la vérité future, la résurrection, le Verbe, l'éternelle génération. De quelles phrases s'agit-il? De quelles prophéties en creux? Claudel les relève dans l'introduction à l'Orestie. Au-dessus de la mer immolée se dresse vaguement l'image d'un Père commun plein de miséricorde, et Apollon prononce ces paroles extraordinaires. Quand la poussière a bu le sang d'un homme, une fois qu'il est mort, il n'y a pas résurrection. À cela, le Père n'a point fait de paroles vers lui qui suffisent. Mais nous, chrétiens, serons aujourd'hui prêts à répondre, c'est vrai, il n'a point fait de parole, mais il a engendré un Verbe, le Verbe qui s'est fait chair, quelqu'un plus puissant que cet Athénée, sorti de son front, car il est sorti de son cœur. Et le discours s'achève par ces lignes sublimes. Mon Père, à qui toute chose au ciel et sur la terre est soumise en ses vicissitudes, et son souffle, nous dirions aujourd'hui son esprit, n'est pas celui de la colère. À la fin de la note sur les Euménides, Paul Claudel élargit la portée de l'anticipation jusqu'à tenter de nous y faire saisir la catholicité d'un unique salut. Le crime des Atrides est comparé par lui à la faute originelle, et la constitution par Athéna de l'Assemblée du peuple est regardée comme l'acte double où d'une part est proclamé le Dieu suprême, d'autre part susciter l'Église qui va légiférer en son nom. Église des vivants et des morts, humanité passée, présente et à venir, assistance solennelle des hommes et des anges. Il faut citer toute la fin de cette note sur laquelle Paul Claudel a voulu non seulement refermer l'Orestie, mais surtout clore définitivement le règne des furies et l'enfer de l'inconscient. Les sombres puissances de la sanction et de la crainte sont solennellement exorcisées, persuadées, reconduites vers les profondeurs inférieures qui sont leur domaine propre, vers les régions de l'origine, là où l'homme reçoit inextricablement jointe à la vie, la liberté, le pouvoir de faire ce qu'il veut, de mériter et de démériter, le sens du bien et du mal. Le seuil de ce mystère où notre personnalité commence est gardé par les furies. L'enfer en bas, derrière un seuil désormais barré, les hommes chez eux sur la terre, Dieu et les créatures plus rapprochées de lui en haut, qui encore ne se font reconnaître que par une certaine lumière infuse et une blancheur d'aube, ainsi l'ordre œcuménique est constitué à jamais sur son triple étage. Pour Hölderlin, le héros moderne est le poète, ce qui correspond à la conception générale du drame claudélien. Le protagoniste de ce dernier, par le truchement des principaux personnages, est en effet la parole créatrice, mais non pas simplement celle du poète. Ce dernier n'est jamais seul, il est en face de quelqu'un dont le silence même est une intention totale qu'il appartient au poète de saisir en y participant. Nous ne pouvons être Dieu qu'en Dieu, où nous sommes appelés à être. Notre loi indivisible de notre monde repose en nous comme un viatique, habite en nous tel un hôte, chemine avec nous tel une compagne. Dieu est, c'est-à-dire veut quelque chose de nous. Et nous, nous flairons cette exigence en nous-mêmes, pour y répondre ou pour la fuir. L'ouvert, devant lequel se tiennent, ou plutôt dans lequel s'avancent les personnages de Claudel, est une perspective où il ne s'engage pas seul. Dieu aussi court l'aventure, il est aussi l'aventure. L'ordre du monde chez les Grecs était implacable et sans faille. « Damit der Weltlauf keine Lücke hat »« Afin que le cours du monde n'ait aucune rupture » en dit Hölderlin, lui-même incapable de se libérer du déterminisme auquel son Empédocle devra succomber. Au contraire, l'univers claudélien est une histoire imprévisible, protéiforme, où tout change et s'accroît de tout, où tout et d'abord le poète se hâte et se bouscule, poussé par et vers un sens irrésistible qui est ici et qui pourtant n'y est pas, dont la révélation est aussi la consommation de celui qui le porte à la lumière. Dans cette histoire, il y a la volonté visible de l'homme et celle invisible de Dieu. Tout le drame se construit dans ce rapport entre le visible et l'invisible, entre la parole humaine qui projette et cette intention autre, insupportablement cachée. L'unique débat du héros claudélien, c'est sa lutte pour affirmer ou garder son indépendance jusque dans cette injonction silencieuse, d'autant plus forte qu'elle n'exige rien et que le sens en est dérobé. Un nouveau moment originel est atteint. Les puissances d'en bas, certes, sont refoulées. Elles cessent d'être entières entre Dieu et les hommes. L'homme est donc seul dans le monde, en face de Dieu. Or, avec une discrétion infiniment angoissante, Dieu se retire et se tait. Ainsi, la liberté de l'homme est sans borne, mais également son angoisse. J'entends celle de l'homme conscient d'être en proie au désir et au manque absolu de l'unité, à la totale présence-absence. Cet homme singulier, c'est le poète. Ce n'est pas le monde qui lui fait obstacle au rapport avec Dieu. Au contraire, il est ouvert. C'est pour le poète un langage symbolique. L'innombrable silence actif dont il se fait le grammairien, parce que telle est la vocation qu'il est capable de se connaître. Tout serait donc en ordre en vue de l'éternel si quelqu'un n'intervenait ici même, avec une évidence immédiate, une personne, une évidence de chair et de sang, une rivale soudain triomphante du Dieu muet. Si quelqu'un ne venait proposer l'unité ici et tout de suite, l'extase dans l'unité. En bref, le héros claudélien est tracé entre le silence de Dieu, perspective de son désir absolu, et la satisfaction bouleversante, exténuante de ce désir, concentré exclusivement sur un être ici-bas. Il est possible d'aimer une créature autant que Dieu. Avec une impudeur sacrée, Mésa le crie à Dieu même dans le partage de midi. Ah, je sais maintenant ce que c'est que l'amour, et je sais que ce que vous avez enduré sur la croix dans ton cœur, si vous avez aimé chacun de nous terriblement comme j'ai aimé cette femme, et le râle, et l'asphyxie, et l'étau. Mais je l'aimais, ô mon Dieu, et elle m'a fait cela. Je l'aimais et je n'ai point peur de vous, et au-dessus de l'amour, il n'y a rien et pas vous-même. Toutes les héroïnes du théâtre claudélien dérangent irrémédiablement l'ordre des choses. Elles ouvrent une blessure, une bouche nouvelle qui prophétise cette part de lui-même que le héros ne connaissait pas. Toujours, il est conduit au choix décisif entre le mirage poignant de l'absolu et l'absolu dans sa totalité insaisissable. C'est par l'amour humain que le poète éprouve jusqu'au fond de sa propre chair l'infini et la limite. Une passion pour un seul être qui veut tout ou rien. À l'exigence de ce seul être se laisse pressentir celle du tout. La souffrance nécessaire pour se détacher de cet être-là crée la force permettant au héros de prendre mesure de l'absolu qui l'anime. D'où l'idée, chère à Claudel, que ces deux êtres étaient prédestinés l'un à l'autre et que leur rapport inextinguible, image et non plus mirage de l'absolu, persiste en Dieu, dans l'éternité du désir, malgré la séparation irrévocable. De Claudel comme d'Eschyle, il peut être dit, avec Paul de Saint-Victor, sa terrible idéalité est la nature même des personnages. Chez l'un et l'autre tragique, le rapport à Dieu est le thème et la fin de leur œuvre. Mais d'Eschyle à Claudel, ce rapport s'est intériorisé jusqu'à n'être plus que le dialogue du seul avec l'un. Claudel n'est pas un grec, mais un chrétien. Et un chrétien très divisé entre la multiplicité de ses appétits et l'unicité de sa tendance mystique elle-même contrariée entre deux infinis de l'amour. En fait, Claudel est aussi un poète moderne. La justice poursuivie par Oreste à travers ses épreuves et ses tribulations est un bien commun, acquis par le héros pour tous les hommes et consacré par Athéna au milieu de l'assemblée du peuple. L'inexorable amour auquel aspire Claudel, cette sagesse mystérieuse qui n'est ni un homme ni une femme, qui parle à l'homme par le silence qui est en lui et ne se laisse pas toucher, est-ce un bien commun ou est-ce une élection singulière ? Le héros claudelien est-il, comme Oreste, un substitué ? Puis-je m'identifier à Signe, à Orient, à Rodrigue, à Christophe Colomb même ? Beaucoup, sans doute, participeront bien davantage à la passion charnelle des héros qu'à la fatalité mystique qui les jette immanquablement au-delà de toute limite, terriblement en dehors d'ici-bas. La tension que produit le drame claudelien ne se résout pas, mais elle laisse le spectateur en suspens dans une espèce de mélancolie religieuse. Elle suscite l'effroi plutôt que l'admiration devant certains héroïsmes du vouloir. Dans l'Orestie, les furies nous chassent devant elles avec Oreste. Le monde inconscient est prodigieusement présent sur la scène. Il a peu de place dans le théâtre claudelien, ce qui nous fait perdre une certaine familiarité atroce avec les tourments du héros. Parfois, il est vrai, et c'est la grandeur unique de Claudel, de cette intensité spirituelle, de cette épuisante ascension à l'aveugle, dans un silence qui s'éloigne toujours, il naît une lumière d'autre monde qui récompense par une soif renouvelée une poignante insatisfaction. Nous sommes devant un nouveau seuil, en deçà d'une seconde naissance, et tout à coup capables de nous écrier avec pensée aveugle, cet enfant intérieur en moi, cette chose en moi qui est appelée à voir le soleil à ma place, pour la première fois, il a bougé, il a cruellement bougé.
Autre témoignage, celui de Jean Cayrol, le poète des camps et scénariste de Nuit et brouillard, l'homme d'un monde noir et perdu, relevé par l'espérance chrétienne évoque Claudel à l'occasion de sa mort en 1955, un témoignage qui sera suivi d'une lecture du poète par le comédien Jean Servais.
Paul Claudel est parti en nous laissant les bras chargés de son œuvre. C'est une œuvre sous laquelle nous ployons, non pas par son poids, mais par son génie. Claudel a fait ce qu'il a voulu, c'est-à-dire, d'après même ses mots, ses propres mots, il est parti du monde des effets vers le monde de la cause. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la vérité, maintenant. Évidemment, quand un auteur comme lui disparaît, c'est un grand vide, mais ordinairement, pour un auteur illustre, c'est comme un coup de vent qui ferme brusquement une porte. Avec Paul Claudel, c'est au contraire, une porte qui va s'ouvrir, non seulement pour les lettrés, mais aussi pour tous, car nous allons maintenant être en communication avec cette œuvre, c'est-à-dire nous allons être, si je peux dire, de plein pied avec Dieu. Il y a, je crois, un tableau de Bruegel. On voit simplement le visage du Christ avec une couronne d'épines très haute et très souveraine. À côté de cette tête de Christ, il y a un extraordinaire déroulement de personnages, hommes et femmes autour de lui. Et on s'aperçoit, regardant ce tableau de Bruegel, je crois d'ailleurs qu'il est de Bruegel, que ces personnages sont, si vous voulez, les témoins, le fleurissement, si on peut dire, de la couronne d'épines du Christ. Eh bien, pour moi, les poèmes de Claudel, comme ces personnages, c'est exactement cette extraordinaire floraison de la couronne du Christ. Ce sont, si vous voulez, le déroulement de ces poèmes qui sont les témoins de la couronne d'épines.
Voici que Dieu n'est plus avec nous. Il est par terre. La meute entale a pris à la gorge comme un cerf. Vous êtes donc venu. Vous êtes vraiment avec nous, Seigneur. On s'est assis sur vous. On vous tient le genou sur le cœur. Cette main que le bourreau tord, c'est la droite du Tout-Puissant. On a lié l'agneau par les pieds. On attache l'Omniprésent. On marque à la craie sur la croix sa hauteur et son envergure. Et quand il va goûter de nos clous, nous allons voir sa figure. Fils éternel, dont la borne est votre seule infinité, la voici donc avec nous, cette place étroite que vous avez convoitée. Voici Élie sur le mort qui se couche de son long. Voici le trône de David et la gloire de Salomon. Voici le lit de notre amour avec vous, puissante et dure. Il est difficile à un Dieu de se faire à notre mesure. On tire. Et le corps à demi disloqué craque et crie. Il est bandé comme un pressoir. Il est affreusement équarri. Afin que le prophète soit justifié qu'il a prédit en ces mots. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont énuméré tous mes os. Vous êtes pris, Seigneur, et ne pouvez plus échapper. Vous êtes cloué sur la croix par les mains et par les pieds. Je n'ai plus à chercher au ciel avec l'hérétique et le fou. Ce Dieu est assez pour moi qui tient entre quatre clous.
Dernier témoignage de poète, celui de Pierre Jean Jouve, le créateur mystique de Catherine Crachat et de Paulina, trouva accès à Claudel dès ses tout premiers textes.
Je ne veux pas oublier que Claudel fut un des maîtres formateurs de ma jeunesse lorsque je commençais d'écrire vers 1907. Son influence émanait alors d'une poésie considérable par la beauté et la novation qui allait de Tête d'or aux cinq grandes odes. Et c'est bien là que Claudel marque son passage indiscutable dans la poésie française issue de Baudelaire. Il y a loin entre Tête d'or et le grand poète qui vient de mourir son œuvre faite. Dans un demi-siècle, la malédiction du poète sinistre ennemi des familles par laquelle tant de poètes ont dû passer, cette condition malheureuse a été conjurée. La tendance révolutionne en esthétique a cédé devant la tendance conservatrice. Ce qui n'empêche point pour autant la poésie de demeurer maudite, même sous le succès. Le peuple de l'ouvrage claudélien manifeste en masse cette évolution même. Claudel est un inspiré qui n'a cessé de baisser sa perspective. Les apports étrangers et lointains de l'Antiquité à l'Asie l'ont nourri mais n'ont pas transporté. La poésie lyrique a été inextricablement mêlée à la poésie de théâtre. Les vagues suivant les vagues, aucune vague n'étant prépondérante, toutes les vagues concourant à la véhémence totale. Mais aucune vague ne connaissait l'éclatement dans une autre dimension que la sienne. Héritier de Rimbaud, car il le proclamait, Claudel s'éloigna de Rimbaud, comme l'ambassadeur devait s'éloigner du voyou de Londres, à mesure que tant de riches emprunts augmentaient ses investissements, et à mesure que le catholicisme, qui régna à partir de l'ode admirable « L'esprit et l'eau », domina son ouvrage pour le conduire finalement à l'apologétique. Claudel exprime, par son rude verset mesuré au souffle, deux vraies forces gravitantes, la terre, la foi. Dans sa religion, aucune mystique. Dans son sentiment du sol, un épais attachement. Or, par cet ensemble puissant et limité, une impulsion naïve, adorante, peut se faire jour dans une maladresse qui retrouve, elle, l'inspiration. Paul Claudel fut une église fruste, haut placée, sur un pays païen de matière et d'angoisse. En dépit du siècle, en dépit de toute réussite, il est un grand pauvre, attendant de Dieu son explication.
Ainsi, sur le palais de nos rois, souffle et passe une troisième tempête.
Première !
Le massacre des enfants et la mère douleur de Thieste.
Seconde !
La passion royale, la mort de l'homme de guerre dans son bain, le roi des Grecs.
Troisième !
À présent nous arrive le sauveur, dirais-je, ou le destructeur. Où cessera la colère du ciel, où se terme que le calme qui recommence.
La musique, comme mise en scène du temps et combinaison de timbres, a toujours été au cœur de la méditation claudelienne. C'est la musique, avant tout, de Pascal et de Rimbaud qui le frappe d'abord. C'est Beethoven qu'il cite comme une de ses grandes influences, et c'est la musique, préférée au sens, qu'il place au cœur de son verbe théâtral. Claudel vécut en contact permanent avec les musiciens, et notamment avec ceux du groupe des Six. Qu'eût-il donné avec Messiaen ou Stravinsky? On ne peut que l'imaginer. Écoutons successivement Darius Milhaud et Arthur Honegger, compagnons d'une vie, avec qui il travailla sur de nombreuses pièces et mises en scène, de L'homme et son désir jusqu'à Jeanne au bûcher, puis Germaine Taillefer, avec qui il conçut Sous le rempart d'Athènes, ils évoquent Paul Claudel.
Monsieur Darius Milhaud, vous avez connu au fond trois Paul Claudel. L'un, le diplomate, dont vous avez été le secrétaire en Amérique du Sud. L'autre, l'auteur dramatique avec lequel vous avez collaboré puisque vous avez écrit la musique de certaines de ses œuvres. Et certainement un troisième Claudel qui était un Claudel, si l'on peut dire, à la ville. Est-ce qu'il y a une différence entre les trois personnages ou est-ce qu'il était le même dans le travail diplomatique, dans le travail de création artistique et dans le personnage, si l'on peut dire, mondain?
Je crois que tout le monde est différent si l'on regarde les gens dans leur travail quotidien, si on les voit ou les surprend dans leur travail de création, et si on les surprend dans un dîner à la ville. Par conséquent, je ne crois pas que Claudel échappe à cette règle générale. J'ai connu Claudel en 1912. C'est Francis Jamme qui l'avait fait, enfin, s'était entremis pour nous présenter Lorsque Claudel était consul à Francfort, j'en avais entendu quelques mélodies que j'avais écrites sur des poèmes de la connaissance de l'Est, et il avait écrit à Claudel pour lui signaler cette chose. Et venant à Paris, Claudel est venu me voir. Et cette rencontre a été absolument décisive parce que c'est ce jour-là même que Claudel m'a parlé de l'Orestie, qui a été un travail qui a absorbé une dizaine d'années de ma vie. Je l'ai suivi au Brésil comme secrétaire particulier lorsqu'il a été nommé ministre de France, chargé de la propagande. Au fond, je remplissais le rôle de ce qui existe aujourd'hui avec les conseillers culturels, qui n'existaient pas à ce moment-là. Par conséquent, j'ai beaucoup travaillé avec lui au Brésil, parce que, par exemple, nous avons fait et élaboré tout le ballet de l'homme et son désir ensemble, par de longues conversations, des séances même, je dirais, de projets, de décors et de costumes, car il y avait là-bas Madame Audrey Parr, qui était la femme du secrétaire de l'ambassade d'Angleterre, qui dessinait admirablement et qui a travaillé aussi beaucoup avec Claudel à ce projet. Du reste, quand ça a été joué, c'est elle qui a fait le décor. Donc ceci faisait partie de son travail. Maintenant, comment était-il au point de vue de son métier de diplomate ? Absolument extraordinaire. Et ça, j'ai pu le vivre avec lui quotidiennement pendant 2 ans, puisque Claudel était venu seul, c'était pendant la fin de la guerre, les 2 dernières années de la guerre de 14, et il est venu sans sa famille. Alors j'habitais avec lui à la Légation, et il avait une vie extrêmement réglée. J'étais généralement réveillé par la porte d'entrée qu'il fermait en faisant un bruit épouvantable vers les 6h30 du matin, heure à laquelle il allait à la messe. Ensuite, il rentrait, et après son petit déjeuner, il s'enfermait dans son bureau pour son travail littéraire. Il travaillait, il fallait pas le déranger, il fallait le laisser tranquille, et jusqu'à 10h. À 10h tapant, il était ministre de France. Alors là, il nous donnait du travail à faire, des télégrammes à chiffrer ou à déchiffrer, des choses à taper à la machine, enfin le petit boulot du secrétaire, tout à fait normal. Il était une précision extraordinaire, il rédigeait tout lui-même. Il ne laissait jamais quelqu'un d'autre que lui rédiger le moindre lettre ou dépêche. Nous déjeunions ensemble, le travail de la Légation reprenait, et à 5h, c'était fini. Alors là, il partait se promener. C'est dans ces promenades solitaires, car il fallait éviter de l'accompagner, sauf si vous le demandez, ce qui était assez rare du reste. C'est dans ces promenades solitaires qu'il élaborait ses œuvres, qu'il pensait à toutes les choses qu'il voulait écrire, à tous ses projets, qu'il mettait en train, peut-être le travail du lendemain matin, c'est possible. Mais mes amis au PNO, qui étaient aussi à la Légation, étaient secrétaires de la Légation, et moi, nous évitions, quand nous le voyons de loin passer au bord de la baie ou dans une rue de Rio, de l'accoster. À partir de 5 heures du soir, nous respections sa solitude. Il rentrait dîner, et tout de suite après le dîner, il allait dormir. Jusqu'au lendemain, 6h30, où la porte d'entrée me réveillait à nouveau.
Jeanne, 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 hérétique, sorcière, relapse, ennemie de Dieu, ennemie du roi, ennemie du peuple, qu'on l'enlève, qu'on la tue, qu'on la brûle!
Hérétique, sorcière, relapse, frère Dominique, tout cela, c'est Jeanne d'Arc? Est-ce vrai? Est-ce moi qui suis tout cela? Et quoi? Ces prêtres que je vénérais, ce pauvre peuple que j'aimais, leur Jeanne, leur pauvre enfant avec eux, c'est vrai qu'ils veulent la brûler? C'est vrai qu'ils veulent me brûler vive?
Arthur Honegger.
La première chose a été naturellement un choc, car nous étions tellement habitués à voir en Claudel un homme pas comme les autres, que nous ne pensions jamais à son grand âge et au fait qu'il pouvait être enlevé assez rapidement à notre affection et à notre admiration. Quand hier j'ai lu dans le journal la mort de Claudel, j'ai eu ce choc si douloureux et en même temps je me suis dit c'est la mort qui devait lui arriver, c'est la mort que je lui eusse souhaité de toute façon. Cet homme parti en pleine activité au sommet d'une gloire inégalée et qui travaillait du matin au soir comme un jeune homme et qui aurait été prêt si j'avais été le voir l'après-midi pour lui demander un scénario ou un sujet pour une œuvre lyrique, il se serait tout de suite mis au travail avec cette espèce de force de création qui était la caractéristique de son génie.
Mon cher maître, voudriez-vous nous rappeler comment s'opéra la conjonction avec Paul Claudel ?
Elle s'est opérée d'une façon presque extérieure, justement à propos d'une œuvre de cette Jeanne d'Arc au bûcher que Madame Rubinstein désirait réaliser une Jeanne d'Arc et nous n'avions pas fixé notre choix encore sur un poète définitif et tout d'un coup, tous les deux, nous avons dit « Ah, il y en a un, si vous voulez, ça serait épatant. » C'est Claudel. Et alors, Madame Rubinstein a écrit à Claudel. Il était à ce moment-là ambassadeur de France à Bruxelles. Il est venu à Paris et j'ai été le voir. Et alors, Claudel, très gentiment, me dit « Oui, j'ai reçu la lettre de Madame Rubinstein, mais vous comprenez, pour moi, poète catholique, écrire une Jeanne d'Arc, c'est ce que tous ont déjà tenté et que je peux dire presque tous ont manqué. » Je ne ressens pas du tout d'élan pour une œuvre de cet ordre. Or non, au revoir mon ami, pour une autre chose, nous verrons, nous parlerons, etc. Et gentiment, il m'a mis à la porte.
Et ça, c'était en 1935, je crois.
C'était même en 1934. Et alors, finalement, justement, c'est là où je disais cette vivacité de conception. Dans la nuit même, il prenait le train pour retourner à Bruxelles et il nous a raconté qu'il avait eu la vision des deux mains de Jeanne enchaînées qui faisaient le signe de croix. Et il l'a vu ainsi sur son bûcher et de là, toute la conception de l'œuvre est partie. Il est venu et il a écrit à Madame Rubinstein et 15 jours plus tard, il nous lisait le texte.
Ainsi, cette œuvre écrite en 1934 attendit 16 ans avant d'être jouée à l'opéra avec Jean Villard, Claude Nollier, etc.
Oui, mais c'est le délai normal pour un compositeur lyrique, ça nous sommes habitués à ça. Nous, ça ne nous étonne pas, ça étonne généralement les auteurs dramatiques, n'est-ce pas ? Mais entre-temps, l'œuvre a été donnée alors sous la forme d'œuvre de concert. La première audition a eu lieu à Bâle avec mon ami Paul Sacher, le Kammerchor et le Kammerorchestre de Bâle avec le concours de Madame Rubinstein.
Et vous avez encore travaillé à d'autres œuvres, n'est-ce pas, avec Paul Claudel ?
J'ai ensuite fait d'autres œuvres avec Paul Claudel, justement à la suite de celle-là et de son voyage à Bâle. Il était très intéressé par les danses macabres qu'on trouve partout dans cette ville. Et immédiatement, on est sauté sur cette occasion pour lui demander s'il ne ferait pas une œuvre sur ce sujet dont je ferai la musique. Et naturellement, il a tout de suite dit oui, parce que dès qu'il était question de travail et de création, son esprit était tout de suite prompt. Et il est rentré à Paris, il l'a oublié pendant quelque temps, et soudain, la Le texte était là, tout prêt aussi, et je n'ai plus qu'à le mettre en musique.
Une dernière question, mon cher maître. Cet esprit universel qu'était Paul Claudel, sentait-il la musique?
Il sentait admirablement la musique. C'est pas, il n'était pas ce qu'on appelle pratiquement un musicien, mais j'ai vu, justement, en travaillant avec lui pour Jeanne d'Arc, combien cet homme savait exactement la musique qu'il désirait pour ses œuvres et aussi pour cette danse des morts. Alors, je me suis dit, je vais me laisser guider entièrement par lui. Moi, j'avais eu dans l'idée de faire ce qu'on appelle un camera-oratorium, c'est-à-dire un petit oratorium de chambre pour un petit ensemble, un petit chœur et un petit orchestre. Et alors, quand je suis arrivé chez Claudel pour qu'il me lise le texte, il m'a dit, ça commence par un coup de tonnerre formidable. Alors, j'ai tout de suite compris que l'oratorio de chambre n'existait plus. Et alors, il m'a tout indiqué, tout jusque dans les détails, même des voix, n'est-ce pas? Ici, une voix de femme, ici, une voix d'homme. Le grand lamento, il m'avait dit une voix et un violon, et c'est le violon qui explique. Et je n'ai plus qu'à suivre ses indications et réaliser, en somme, dans mon langage, ce que lui pensait. J'ai fait encore avec lui donc la musique des scènes pour Le Soulier de Satin, pour la comédie. J'ai fait une petite musique aussi de scène pour la radio, pour Tête d'or, quand on a donné Tête d'or. Et j'aurais été prêt à faire encore bien d'autres choses si j'en avais eu la force. Et maintenant, cette collaboration est malheureusement définitivement rompue.
Germaine Taillefer.
Alors Paul Claudel m'a demandé de faire la musique de scène pour cette espèce de monologue qu'il écrivait pour le centenaire de Philippe Bichet.
Sous les remparts d'Athènes.
Sous les remparts d'Athènes, du grand savant Berthelot.
Oui, alors il vous a demandé de faire une musique de scène, je crois qu'il y tenait beaucoup.
Il y tenait beaucoup.
Mais oui. Il voulait que cette musique n'ait aucun rapport avec les personnages.
Exactement.
Et ce qu'il disait.
Oui.
Alors, par conséquent, ce qu'il voulait, c'était une sorte de décor sonore.
C'est ça, exactement. Il ne faut pas que la musique suive le texte, surtout pas. Il faut que les gens parlent à midi sur les remparts d'Athènes, ils entendent le bruissement des abeilles, de l'eau, de la fraîcheur ou de la chaleur, et que la musique ne soit jamais en rapport avec le dialogue.
Alors, il vous a expliqué tout ça sur le bateau, mais je crois que vous avez eu l'occasion de travailler tous les jours, dès son retour en France, parce que vous étiez installé près de lui.
Oui, rue de Passy, nous habituons à 2 ou 3 numéros de différence.
Bon, alors, par conséquent,
il venait tout le temps.
Et,
oui.
vous donnait des indications.
Oui, il me donnait des indications, mais comme j'avais bien compris ce que je voulais, ce qu'il voulait, alors c'était très facile, parce que je faisais exactement ce qu'il voulait. Et bien, j'aime bien collaborer avec les femmes, parce qu'elles font ce que je veux.
Ah bon?
Les femmes sont très souples, disait-il. Les femmes sont très souples, elles font ce que je veux. C'est comme ça qu'il avait demandé à Madame Parr, une très belle Anglaise, de faire le décor de son ballet avec Milo, qui était la création du monde.
Oui. Est-ce que c'était un bonheur de travailler avec Claudel?
Oui. Oui, parce que dans la mesure où on faisait ce qu'il voulait, il était tellement enthousiaste, il était tellement content quand on avait une jolie harmonie, quand on avait créé l'ambiance qu'il voulait. Il était comme un enfant, il était exultant. Et c'était ça qui était tout de même très, très attachant chez ce personnage qui avait l'air très rebutant, qui était dur. Et bien tout d'un coup, il venait lumineux, gentil, agréable. Enfin, il aurait voulu travailler 20 heures avec lui, tellement c'était agréable.
C'est un très beau texte d'ailleurs, Sous les remparts d'Athènes.
C'est beau,
une très, très grande pureté.
C'est une grande beauté, oui. Malheureusement, elle n'a pas pu l'entendre.
On l'a donné en première audition à l'Élysée.
À l'Élysée, sous la présidence de Doumergue, Paul Doumergue.
Vous avez assisté, bien entendu, à la première.
Oui, j'étais invitée à la première. Et comme j'étais très, très intimidée d'être à l'Élysée, c'est Jean Giraudoux qui m'avait servi de chaperon.
Mais comment se fait-il que cette œuvre n'ait jamais été donnée par la suite ?
Jamais. On aurait pu le donner à la Comédie Française, c'était fait pour ça, parce que c'était deux acteurs de la Comédie Française qui l'ont donné.
On se demande comment il peut se faire que les Claudeliens n'aient pas songé à monter
jamais
sur les remparts d'Athènes.
Jamais.
Je pense que c'est une chose que l'on devrait suggérer à Jean-Louis Barrault.
Ben oui.
Mais tous les Barrault ne s'appellent pas Jean-Louis. Autre compositeur, grand homme de radio, avoir travaillé avec et pour Claudel, Henri Barrault. Cet amateur de Peggy, auteur également d'un Tédéum, releva même le défi d'une adaptation lyrique de Tête d'Or.
Henri Barrault, vous avez abordé l'œuvre de Claudel à quelle époque ?
Oh, je l'ai abordé très jeune. Je l'ai abordé en 1920 à peu près. C'est-à-dire que j'avais 20 ans à ce moment-là. Et je dois dire que je ne le connaissais pas du tout, je dirais même pas de nom. Mais j'ai fait sa connaissance par l'intermédiaire d'un de ses grands amis qui s'appelait Gabriel Friseau, qui habitait Bordeaux comme moi, et dont on a publié d'ailleurs un volume de correspondance entre Claudel et Friseau. Et quand j'ai eu l'occasion de parler de Friseau avec Claudel, il avait vraiment des larmes dans la voix. Alors c'est dire que c'était des amis très intimes et je ne pouvais pas trouver un meilleur moyen de pénétrer dans cette œuvre qui était pour moi quelque chose de très nouveau.
Alors votre première lecture
Eh bien mon Dieu, les premières lectures, je me demande exactement, parce que j'ai lu un peu tout cela pêle-mêle, vous savez quand on est jeune on absorbe vite, mais je crois qu'au fond j'ai commencé par son théâtre et puis ensuite par les grands poèmes comme les cinq grandes odes ou la cantate à trois voix, des choses comme celle-là, qui étaient d'ailleurs plus difficiles à pénétrer pour moi, j'entrais plus facilement dans son théâtre et je suis toujours entré très facilement dans son théâtre parce que je crois que c'est ma nature de musicien qui joue là-dedans, car je trouve que dans son théâtre, particulièrement, à vrai dire, dans sa prose aussi, dans tout ce qu'il a fait, Claudel a, il y a des valeurs musicales extrêmement fortes qui agissent beaucoup sur ma sensibilité, qui ont toujours agi beaucoup sur ma sensibilité. Quelque chose de dru, quelque chose de dense et quelque chose de rythmé. Il y a un rythme musical et une composition musicale, car il avait un sens extraordinaire de la composition musicale. Ça, quand je l'ai connu plus tard, j'ai pu m'en rendre compte. Rien qu'en le voyant, par exemple, donner à René Guerre des indications sur la manière de composer la musique de Tête d'Or, que je lui avais commandée. Et ceci m'a été très sensible.
Oui, alors au tout début où vous avez donc lu le théâtre de Claudel, c'est plutôt la rythmique de la langue ou est-ce la composition générale de l'œuvre qui vous a attiré ?
Les deux ensemble, parce qu'il y a d'un côté la rythmique de la langue qui est chez lui très caractéristique et qui est extrêmement musicale, mais la composition est également une composition musicale.
Vous pouvez donner des exemples ?
Ça, donner à brûle-pourpoint des exemples, ça me serait assez difficile. Et il faudrait que je rappelle mes souvenirs, par exemple, sur Tête d'Or. Parce que Tête d'Or est une œuvre, au fond, que personne ne connaissait. J'ai découvert Tête d'Or avec un très grand ahurissement. Et plus tard, d'ailleurs, je dois dire, je ne suis pas entré dans Tête d'Or tout de suite. Mais il faut croire que la composition de Tête d'Or est très spécifiquement musicale. Puisque j'ai eu pendant peut-être une bonne année, mais une tentation très forte et presque la décision d'essayer d'écrire une œuvre lyrique, d'écrire un opéra sur Tête d'Or, précisément parce que cette composition et cette fin, la manière dont cela démarre au début, puis dans cela s'enfle dans tout l'acte où Tête d'Or prend le pouvoir, n'est-ce pas, qui se développe comme un grand allegro de symphonie après une introduction, et puis alors cette fin qui se perd. Il y avait là une espèce de symétrie, et avec un milieu architectural très puissant, très fort et très dense, qui me tentait beaucoup pour une traduction musicale. J'y ai renoncé, je dois dire, précisément parce que j'y ai trouvé un tel excès de richesse que je me suis dit que vraiment, qu'est-ce que je pourrais y ajouter.
Alors là, vous parlez de la composition générale de l'œuvre et au niveau alors de la rythmique de la langue.
Ah, au niveau de la rythmique, alors là, ça tient beaucoup à quelque chose qui me semble assez unique chez Claudel, qui est assez difficile à définir également. Mais la phrase de Claudel a un rythme intérieur que je ne trouve pas d'équivalent exact dans la littérature française, ou je ne sais pas, il faudrait presque remonter à Rabelais pour trouver cette façon de faire rebondir la phrase sur des expressions mordantes et toujours choisies en fonction de la sonorité du mot et de la syllabe. Je crois d'ailleurs que c'est une des choses qui l'a attiré vers Rimbaud. Il a par exemple une phrase sur... je ne saurais pas citer de mémoire. Il a parlé d'une certaine phrase, d'une saison en enfer, où il est question de tourbillon. Je ne retrouverai plus comme cela à brûle-pourpoint. Mais enfin, où l'on voit à quel point la sonorité de la langue, la sonorité des consonnes et des voyelles, le groupement des consonnes et des voyelles, jouait pour lui un rôle, et même je dirais probablement un rôle inspirateur. Je crois qu'il suivait un certain génie de la langue qui lui était d'ailleurs au fond très personnel, parce que c'est un génie qui est assez contraire finalement à celui de la langue française telle que l'ont conçu par exemple les classiques, qui ont traité la langue française comme quelque chose de très plane, tandis que lui, il traite la langue française avec des quantités de rebondissements rythmiques qui à certains moments pourraient presque plutôt est assimilé à certaines des qualités de l'allemand, mais avec quelque chose d'infiniment plus varié dans le rythme que la langue allemande qui, elle, va d'accent tonique en accent tonique. On pourrait trouver, je ne dis pas des antécédents, mais par exemple le goût très prononcé qu'il avait et qu'il m'a dit avoir pour Bossuet. Il m'a expliqué certaines phrases de Bossuet en rythmant même avec ses mains le rythme de la phrase. Eh bien, je me suis dit, tiens, on sent qu'il y a quelque chose d'analogue chez lui. Et quand je parle de Rabelais, c'est à cause du côté de rue et dense de la langue, qui d'ailleurs se retrouvait dans sa manière de le prononcer, parce que je ne sais pas si vous l'avez connu, mais il mâchait les mots, et j'entends quand je lis, j'entends sa voix quand je le lis. C'est ce qui d'ailleurs me rend tellement, tellement vivant, sa pensée et son style, parce que j'entends l'homme en même temps.
Deux heures après dîner, il est temps de se reposer. N'y mouvrons aucun bruit, deux heures l'après-midi. Un chien prudent vient inspecter la terrasse du café. Tout est fermé à la mairie, item à la gendarmerie. Crucifix agonise, le jet d'eau chez la notaire suit son rêve protocolaire, mais la chambre silencieuse dégage une odeur ombreuse de feuillage. De chocolat, dont la corbeille à ouvrage.
C'est avec le poète catholique espagnol et combattant républicain José Bergamín qui tenta, long sans doute bien avant la guerre civile, d'initier Claudel au mysticisme espagnol que nous terminerons cette émission.
Je me rappelle qu'une fois, j'étais, parce que j'étais à cette époque, ça, c'est pas un temps de guerre, comme ami des Français, des intendants français, que j'accompagnais certains poètes qui allaient en Espagne pour voir, connaître l'Espagne. J'accompagnais les grands poètes, Paul Claudel, qui n'a pas compris un seul mot à toute cette histoire de l'Escorial. Ça me rappelle très bien, parce que c'est une anecdote assez étrange qui m'est arrivée avec lui. Il m'avait donné rendez-vous à Musée du Prado, dans la salle des Titiens, qu'il aimait beaucoup. Il m'a dit, je suis le meilleur Titien du monde, peut-être tu as raison.
Oui.
Et devant la Vénus et la musique, il m'a pris par un bras, tout ému, et il m'a dit, voilà mon catholicisme. Naturellement, après, je me dis, il va aller en Escorial, il ne va pas comprendre cet autre catholicisme-là. Vous voyez, parce que dans la grande église catholique, il y a toutes sortes de possibilités de formations apparemment tellement différentes.
Pourtant, en ce qui concerne Claudel, ce qui est curieux, lui qui n'a pas compris sur place le catholicisme espagnol, l'a quand même assez bien traduit, en tout cas dans son aspect baroque, dans le soulier de satin, par exemple.
Oui, c'est une pièce très romantique.
Baroque même,
mais pas très espagnole. C'est une interprétation de l'Espagne que je trouve beaucoup moins espagnole. Par exemple, les interprétations romantiques de Chateaubriand ou de Gautier ou de Dumas ou de Barrès. Il se détache de cette, à mon avis, tradition vraie de l'interprétation romantique d'Espagne. Qui arrive jusqu'à Bernanos et à Malraux.
Voilà, c'était Claudel témoignage, deuxième partie. L'émission était réalisée par Annie Douel, le mixage de Yves Baudry, une émission proposée par François Angelier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 juillet 2005. C'est pour notre part l'émission d'archives consacrée à Paul Claudel que nous avons rediffusée donc dans les Nuits de France Culture. Et demain, à la même heure, dans les Nuits de France Culture, vous pourrez entendre le troisième volet de cette série, Jean de théâtre.